Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Un numéro d'International avec TV5 Monde, RFI et le quotidien Le Monde. Émission qui se situe un jour bien particulier, on pourrait dire même un jour historique en France, avec, vous l'avez vu sur les différentes antennes, cette passation de pouvoir entre François Hollande, le président sortant, Emmanuel Macron qui lui succède. Et donc vous verrez tous les développements, tous les moments forts de cette journée en restant sur nos différentes antennes. Nous avons choisi International le contrepoint de cette actualité. Vous verrez tout ce qui se passe en France. Nous voulons voir les enjeux de cette nouvelle gouvernance de la France en ce qui concerne l'extérieur, c'est-à-dire l'aide au développement. Et pour cela, nous avons convié le directeur général de l'Agence française pour le développement, Rémy Rioux. Merci d'être sur le plateau de TV5 Monde. Nous allons vous poser justement beaucoup de questions sur ce développement avec Christophe Ayad. Les enjeux, les pays où vous êtes, quel est le type d'action, de dons, d'aide, je le disais, au financement. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous poser des questions sur cette actualité. Vous avez été directeur de cabinet du ministre de l'économie, Pierre Moscovici, et vous travailliez donc à l'époque avec le secrétaire général adjoint de l'Élysée, en charge notamment des affaires économiques, et c'était un certain Emmanuel Macron.
Absolument.
Parlez-nous de l'homme. Est-ce que vous avez été surpris par ce qui s'est passé, bien sûr, comme tout le monde, ces dernières semaines?
Oui, effectivement. Donc, pendant deux ans, on a travaillé vraiment au quotidien, lui de l'Élysée, moi depuis Bercy. Et personne pouvait prédire évidemment ce qui allait se passer, mais on pouvait déjà sentir un talent très 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 singulier que je crois les Français ont appris à connaître pendant cette campagne. Pour le décrire, je dirais que c'est un talent à la fois d'empathie, très grande capacité d'écoute, de compréhension. Quand quelqu'un le rencontre, il ressort de son bureau en disant qu'il lui a parlé, je veux dire, qu'il lui a vraiment parlé, de compétences, de liberté, bien sûr, et puis une très grande détermination. Et ça, je pense que les Français vont
vite le découvrir. Mais est-ce que vous
sentiez
qu'il était sur une lancée d'ambition personnelle, de projet présidentiel? Est-ce que ça transparaissait?
À l'époque, non. Il était évidemment, il portait des idées, des combats qu'on a retrouvés évidemment avec une toute autre ampleur pendant la campagne. Donc, il avait ce franc-parler, cette identité, cette vision, mais bien sûr comme un collaborateur du président à cette époque-là.
Rémy Rioux, pendant son tout premier discours, après son intronisation, Emmanuel Macron a beaucoup fait référence à l'international, l'image internationale de la France, l'attente. C'est suscité des espoirs un peu exagérés dans un pays qui est assez fracturé, où il y a beaucoup de réformes à faire. Et est-ce que la France, en ce moment, peut rayonner ou est-ce qu'elle doit se concentrer sur elle-même?
Oui, je crois que c'est très frappant. On l'a encore entendu ce matin dans son discours après son investiture. Je crois qu'il ne fait pas de séparation entre le progrès de la France, la réforme du pays et sa place dans le monde. C'était les deux pans de son discours ce matin, avec des mots très forts. Hein. J'ai noté « rien ne frappe les uns sans frapper les autres ». J'ai noté « nous sommes tous voisins ». J'ai noté « il faut construire le monde ». Que notre jeunesse mérite. Donc vous voyez, à chaque fois, notre jeunesse et le monde. Donc vraiment ce lien, ici, là-bas, les deux agendas, les deux priorités sont indissolublement liées. Et ça renvoie, je crois, à sa personne. Je rebondis juste une seconde sur ce que vous aviez dit. Très grande fibre européenne, il l'a exprimé, et on en parlera peut-être. Il y a une Europe du développement qui n'attend qu'un souffle pour vraiment prendre toute sa place. Et puis aussi une fibre africaine. Je l'ai entendu sur une chaîne concurrente. On lui demandait où il était le 21 avril 2002, ce jour évidemment très très fort. Et il était en stage de l'ENA au Nigeria, à Abuja. Mmh. Et donc il l'a rappelé. Il a aussi cette expérience, je crois, de l'Afrique. Donc de nos partenariats très proches et de nos partenariats plus lointains.
Maintenant que les élections sont passées, on peut vous poser la question, est-ce qu'il y a des différences programmatiques entre les différents candidats qui s'affrontaient? C'est-à-dire le développement à gauche ou à droite, oui. Est-ce que c'est pareil?
Ce qui m'a frappé dans cette campagne, c'est que le développement avait sa place. venir généralement. La politique internationale, oui, bien sûr, mais également aussi, un peu mezzo voce, mais le développement, ce qui est très nouveau, en fait. Parce que dans les campagnes précédentes, c'est un sujet...
Il n'y a pas d'enjeu électoral.
...coche pour le dire, mais ça n'est pas vraiment dans le débat politique. Et là, effectivement, le soir même de son investiture, le nouveau président a dit qu'il tiendrait les engagements de la France en matière de développement et de climat. Et là aussi, il lit les deux sujets, il l'a refait encore ce matin, où il a parlé de migration, il a parlé de climat, il a parlé de terrorisme, bien sûr. Je crois qu'il est l'expression aussi d'une prise de conscience de nos concitoyens, qu'il n'y a plus de rupture entre des choses qui se passeraient très loin de nous et des choses qui se passent dans notre propre pays. Et ça, c'est une nouvelle étape vraiment où il faut lier ces deux réalités très fort.
Alors, d'un mot, et on va parler bien sûr de l'Agence française du développement, vous connaissez aussi très bien son équipe, le nouveau secrétaire général de l'Élysée, Alexis Keller, on l'a appris ce matin, qui était votre adjoint.
Et c'était le directeur adjoint, oui, du ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, en 2012. Donc je suis très ému et très heureux de cette nomination.
Bref, vous allez pouvoir travailler avec cette équipe sans qu'il y ait de période de découverte.
On est à leur disposition.
Alors, parlons de l'Agence française de développement. Vous avez tenu cette semaine une conférence de presse. Il faut rappeler que c'est l'agence la plus ancienne parmi ces banques de développement. Elle a été fondée il y a 75 ans à Londres par De Gaulle. Vos engagements, c'est près de 10 milliards, 9,4 milliards d'engagements dans le monde, plus 13% en un an. Quelles sont les priorités? À quoi ça sert une agence française du développement pour la France?
D'abord, je vous remercie de me donner un temps d'antenne pour expliquer, parce que notre agence est peu connue en France. En fait, elle est très connue dans les pays, plus de 100 pays dans le monde dans lesquels elle intervient.
Dans le monde entier en ce moment.
Et je le constate dans tous mes déplacements, mais elle reste un petit peu discrète.
Confidentielle
aussi dans son propre pays. C'est très important parce que le développement, c'est vraiment une des trois dimensions de la politique internationale et de rayonnement international d'un pays. Vous avez la politique, la diplomatie, évidemment. Vous avez la défense, la sécurité.
L'action militaire.
Et le troisième pilier d'une politique étrangère, d'une politique extérieure, c'est tout le reste. Et tout le reste, ça s'appelle développement. Ça veut dire culture, ça veut dire économie, ça veut dire commerce, ça veut dire tous les liens qui nous unissent avec le reste du monde. Et donc l'Agence française de développement, c'est l'institution qui est en charge de mettre en œuvre ce troisième pan de notre politique étrangère. Et les Français, le président Emmanuel Macron l'a redit ce matin, il faut redonner de la confiance, de la fierté aux Français. Je crois qu'ils peuvent être fiers d'avoir un instrument de ce type qui, vous l'avez indiqué, est le plus ancien du monde. On est né... Il y a un petit ergolien aussi en ce moment dans l'air à Paris.
Oui, tout le monde s'en indique un peu.
Et ça, on en est très heureux, nous, parce que c'est le général de Gaulle qui a créé l'Agence française de développement à Londres en 1941, et on est le premier pays au monde à avoir créé un instrument de ce type qui a depuis fait un très beau parcours.
Alors, je vais repréciser la somme, 9,4 milliards d'engagements, ça représente, j'allais dire, ça ne représente que 0,38% du produit intérieur brut de la France, c'est-à-dire 0,4% de la richesse produite chaque année en France. C'est pas énorme.
Alors il y a un engagement international, vous l'avez rappelé, qui est depuis longtemps, qui est d'atteindre 0,7%. Il a été reconfirmé en 2015 avec un horizon 2030. Dans la campagne, le président de la République a pris des engagements d'essayer de viser, d'atteindre cet objectif plus tôt, mais nous n'y sommes pas encore. Et donc, bien sûr, l'AFD est un instrument très dynamique. Il n'est pas le seul, hein. Il y a aussi nos contributions à la Banque mondiale, à tout le multilatéralisme, mais on espère bien prendre encore plus de force dans les années qui viennent.
Rémi Aoud, cet engagement, il a déjà été pris par François Hollande, par Jacques Chirac, je ne sais plus si Nicolas Sarkozy l'avait. On a l'impression qu'à chaque quinquennat, ou enfin à chaque mandat présidentiel,
à chaque campagne,
voilà, le président dit on va y arriver à la fin de notre mandat, et puis en fait, ça stagne terriblement quand même.
Oui, l'élément nouveau de contexte qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que il se passe quelque chose dans le monde du développement, au plan international. Et notamment, il y a quelque chose de très important qui s'est passé, c'est que notre voisin le plus proche, l'Allemagne, a atteint le 0,7% de son produit intérieur brut à la fin de l'année 2016. Et donc la chancelière que le président verra demain a lancé la machine, a pris des engagements très très forts. Les Britanniques aussi, alors depuis plus longtemps, depuis Tony Blair en vérité, se sont placés sur un plateau très élevé en matière d'aide au développement. Les Italiens, on a des liens très étroits avec Rome, les Italiens repartent également. Je recevais mon homologue espagnol vendredi à Paris, et il y a aussi retour à meilleure fortune en Espagne. Peut-être que ça va repartir aussi dans ce pays-là. Donc vous avez un mouvement européen duquel la France
est en queue de peloton.
Non, la France n'est pas à la traîne. On reste le cinquième pays au monde en matière d'aide au développement, mais les autres bougent, les autres progressent, et il y a de plus en plus d'actions internationales où on a besoin de ce complément financier et d'expertise et de projection de l'Europe et de la France. Et voilà, c'est la question qui est posée, je crois, au début de ce mandat.
Alors, au cours de votre conférence de presse, vous avez prononcé trois mots qui marquent l'action, l'engagement en matière de développement. Vous avez parlé tout d'abord d'Afrique,
oui.
Vous avez parlé de climat, et vous avez parlé du genre, c'est-à-dire la parité, l'égalité femmes-hommes. On va commenter l'Afrique, on va commenter le climat, mais cet engagement de la parité, c'est important pour choisir des actions à conduire.
Vous savez, toute la recherche, toute la littérature sur le développement montre depuis maintenant très très longtemps que si on implique les femmes, si on implique les communautés dans leur ensemble, y compris les femmes, dans la mise en œuvre des projets, dans la conception des politiques, dans la gestion des sous aussi souvent, le résultat, l'impact de développement mesuré est nettement supérieur. Donc il y a vraiment à la fois, c'est évidemment une exigence morale dont nous sommes comptables, mais c'est aussi un gage d'efficacité de l'aide au développement d'associer les femmes. L'agence, on a 50% de nos projets, pas encore de nos montants, mais du nombre de projets, et ça fait plus de 40% de nos montants, dans lequel il y a une dimension pour le genre, pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes.
Concrètement, comment vous faites ? Vous conditionnez le financement d'un projet au fait qu'il y ait parité ?
Il peut y avoir dans la mise en œuvre du projet effectivement une place laissée aux femmes dans les communautés, ou alors on fait des projets qui ont un impact direct sur les femmes. Je vous donne deux exemples. On vient de signer une ligne de crédit avec une des banques de développement turque qui s'appelle la TSKB. Pour l'emploi des femmes, pour l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est, vous voyez, on apporte de la ressource à cette banque qui va ensuite la distribuer en faisant des prêts à des femmes pour créer leur propre entreprise, leur propre activité. Ou en Inde, on a financé un métro dans la ville de Kochi, et on a mis dans le projet que tous les conducteurs de ces voitures seront des femmes. Donc de l'emploi, oui. Il peut y avoir des actions directes et des actions indirectes pour renforcer leur place.
Vous heurtez pas dans des sociétés extrêmement conservatrices, patriarcales, à une hostilité de fond dans le fait que vous, d'une certaine manière, vous portez atteinte à leurs valeurs. Je pense à l'Afghanistan. Alors on est un peu loin, hein, on est dans un pays en guerre, etc. Mais on a tellement dit qu'on allait en Afghanistan pour notamment améliorer le sort des femmes afghanes, ce qu'on peut très bien comprendre, mais qu'on a suscité une sorte de réaction en retour extrêmement hostile, et on a l'impression que chaque fois que les talibans arrivent dans un village, ils défont ce qui a été fait pendant les 10 dernières années.
Je crois qu'il faut distinguer on a un mandat international. Tous les chefs d'État du monde en 2015, fin septembre à New York, ont adhéré aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Vous savez, il y en a 17, et il y en a un qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, le président afghan était là. Donc, on a ce mandat international. Après, la question que vous posez, c'est comment on le met en œuvre. Et là, évidemment, on ne dit pas il faut faire comme en France, ou il faut faire comme en Allemagne, ou il faut faire comme aux États-Unis. Il faut évidemment prendre en compte la réalité sociale, la réalité culturelle, ses pesanteurs, et voir quelle est l'étape qu'on peut faire dans le consensus pour améliorer la situation.
Je le disais, vous êtes présent dans le monde entier, dans 108 pays. Oui. Est-ce que c'est la vocation de la France d'être, par exemple, en Amérique latine, par exemple en Chine, en Inde, dans différents pays, ou est-ce que
en Turquie, comme vous le disiez,
oui, en Turquie, oui. Est-ce qu'elle n'aura pas vocation à se, reconcentrer sur les pays historiques, culturels, francophones où elle était ? Vous avez vraiment une vocation mondiale ? On vous attend en Chine ?
La politique de développement, c'est deux choses. C'est évidemment des résultats de développement. Et il faut concentrer nos moyens, en particulier les moyens que nous confient les contribuables. Je vous expliquerai le modèle financier, si ça peut-être ça peut lasser nos téléspectateurs. Mais dans les pays les plus pauvres, évidemment. Mais on est aussi un capteur, un élément de la politique étrangère, de la politique extérieure. Et de ce point de vue-là, on a vocation à intervenir, je crois, dans l'ensemble des pays du Sud et des pays en développement et émergents. Donc c'est pour ça qu'on est en Chine.
Alors,
et on y est, explique-moi.
Alors, on est en Chine, on fait du développement en Chine. Est-ce que la Chine est un pays en développement ?
Alors, elle l'est officiellement, selon les catégories de l'OCDE. Vous savez, il y a une liste des pays en développement, et dans les organismes des Nations Unies également. Ce qu'on va faire en Chine, évidemment, c'est du climat. Vous voyez, c'est ce qui est très important, c'est si on veut absolument mettre en œuvre, j'étais auprès de Laurent Fabius, les engagements de la COP21, ça se passera évidemment dans les pays pauvres, mais ça se passera aussi dans les grands pays émetteurs. Donc, il faut être en Inde, il faut être en Chine, il faut être au Mexique, il faut être au Brésil, et essayer par des incitations. L'aide au développement, ça n'est qu'une incitation, évidemment. C'est si le modèle économique de la Chine se transforme, il est en train de le faire, qu'on arrivera à lutter. Mais on a un petit ferment, là. On a un élément de dialogue, on a un canal qui est ouvert avec les autorités chinoises. Pourquoi s'en priver ?
Vous avez d'ailleurs une jolie devise, un monde en commun, pour montrer qu'effectivement, certains enjeux, notamment climatiques, ne s'arrêtent pas aux frontières. Le point important de votre action, c'est près de 50% hein, de vos engagements, plus de 4 milliards d'euros par an, c'est en Afrique.
Oui.
Alors, pourquoi ce choix ?
L'Afrique, c'est la grande affaire, évidemment, depuis toujours, de l'Agence française de développement. On a un bureau à Dakar depuis 1942, donc on a une connaissance très, très ancienne, très intime, très profonde des réalités africaines. L'Afrique, c'est le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique sont là aussi liés de façon évidente, immédiate. Le président a parlé des migrations ce matin. Donc, bien sûr, il faut qu'on maintienne, même dans, vous savez, on va beaucoup augmenter l'activité de l'Agence d'ici à 2020. On va passer on est à 9,5, on va passer à 13 milliards d'euros de financement par an d'ici à 2020. C'est une taille très significative dans le monde du développement, celui d'une banque régionale. Donc dans ce chemin de croissance, on va essayer de garder 50% de financement en Afrique. Donc ça va faire beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de capacités sur le continent. Et peut-être nous, on essaie de porter à l'Agence française de développement un peu un nouveau discours sur l'Afrique, une nouvelle vision. On a fait un petit colloque récemment sur ce thème. On l'a baptisé « Toute Afrique ». Et « Toute Afrique », ça veut dire « Prenons vraiment l'Afrique comme elle se conçoit, comme elle s'affirme en ce moment sur la chaîne internationale, et arrêtons de la couper en deux, en particulier. Arrêtons de couper l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Parce que probablement, si on a des difficultés au Sahel, si on a peut-être sous-estimé l'impact, y compris le développement de sécurité de la crise libyenne, peut-être que c'est parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui réfléchissent à l'Afrique du Nord et à l'Afrique subsaharienne et au lien entre ces deux réalités.
Alors, la question qu'on se pose parfois, vous intervenez dans des pays, ça ne se réduit évidemment pas à l'Afrique, où la gouvernance est discutable, des régimes où la corruption existe. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que l'argent que vous injectez va bien au projet, aux populations, et ne finit pas, par exemple, dans des biens mal acquis ?
Alors vous avez raison, hein, l'objectif final d'une agence de développement, c'est l'impact,
oui.
C'est-à-dire de toucher les populations.
Mais vous travaillez avec le gouvernement ?
Alors, la caractéristique de l'Agence française de développement, c'est un autre 50%, c'est qu'on fait 50% de notre activité pas avec les gouvernements, effectivement, des pays du Sud, et on fait l'autre moitié de notre activité avec tous les autres acteurs des économies, des sociétés, des pays où nous intervenons. Donc ça veut dire bien sûr le secteur privé, on a une filiale dédiée pour ça qui s'appelle Proparco. Ça veut dire les collectivités locales, on est la seule agence de développement qui peut prêter à une collectivité locale sans demander la garantie de l'État, sans le gouvernement, ou bien sûr les ONG, la société civile, tout le tissu. Donc vous voyez, ensuite, il faut atteindre les populations. Donc il faut, dans chaque pays, compte tenu, vous avez raison, les risques existent, évidemment. Il faut trouver le chemin, l'instrument qui permet d'atteindre cet objectif. Et il est différent selon les pays.
Et vous vérifiez, avant d'accorder une nouvelle enveloppe, que l'argent a bien été investi, qu'il est là, qu'il y a des résultats ?
Après, vous savez, la corruption dans les pays du Sud. Je vous donne un chiffre. L'aide publique au développement, c'est 150 milliards de dollars par an. Tous les pays du monde, hein. Les recettes domestiques, les ressources, la fiscalité des pays émergents et en développement, des pays du Sud, c'est 7 000 milliards de dollars. Donc vous voyez, pourquoi, si vous voulez vraiment détourner de l'argent, pourquoi allez vous embêter à aller dans la poche qui est beaucoup plus petite, qui est très contrôlée, alors que malheureusement d'autres circuits financiers, vous avez raison, sont moins... Alors après, il faut s'employer à ce que ces circuits soient renforcés pour avoir le maximum d'impact.
Voilà, nous allons faire, si vous voulez bien, une pause, le temps de suivre l'actualité, notamment sur RFI, et on vous retrouve, Rémi Rioux, pour parler du développement, pas seulement de la France, mais de ce qui se passe au niveau mondial. À tout de suite. Retour à International, TV5 Monde, RFI et le quotidien Le Monde. Nous parlons aujourd'hui de développement, l'effort de la France en matière de développement avec Rémi Rioux, qui est donc le patron de cette agence de développement. Nous parlions de l'Afrique, merci d'être avec nous. Nous parlions de l'Afrique. Question de Christophe Ayad.
Rémi Rioux, sur l'Afrique, on... une des choses qu'on vous reproche, c'est souvent de compter dans l'aide au développement de l'annulation de dette. Donc en fait, c'est un peu, c'est, ça n'a pas d'effet concret, quoi. C'est des dettes qui, de toute façon, ne seraient pas remboursées. Donc on a, alors, on a un peu l'impression que on gonfle comme ça l'impression de l'aide, mais fondamentalement, les Africains voient pas cet effet.
Alors, c'est l'annulation de la dette a été effectivement une source d'aide au développement dans les années 2000 importante. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête aujourd'hui, c'est que cette phase d'annulation de la dette est terminée. En vérité, il reste un ou deux pays dont la dette n'a pas été annulée. Mais maintenant, on parle bien de financement additionnel, au-delà, en prêt, en don, en garantie, en fonds propres, au-delà de l'annulation de la dette. Et après, moi, je serais moins sévère que vous. Hein. Les pays, beaucoup de pays africains sont restés très, très fortement pénalisés pendant 20 ans à cause de la crise de la dette. Et je crois que les initiatives qui ont été prises au début des années 2000, notamment à l'initiative du président Chirac, pour annuler ce fardeau sur des pays africains, ont été très heureuses. Elles ont en particulier libéré des capacités budgétaires pour les pays, dont d'ailleurs les Africains ont fait un très bon usage depuis 10 ans. Quand vous regardez la trajectoire de l'Afrique, vous verrez que beaucoup d'infrastructures ont été construites en Afrique depuis 10 ans. Beaucoup de villes africaines, quand vous y étiez il y a 10 ans et que vous revenez, se sont transformées. Et au point d'ailleurs de revenir maintenant dans des zones d'endettement pour un certain nombre d'États qui supportent pose beaucoup d'attention.
Bon, et le deuxième reproche qui vous est fait assez régulièrement, c'est d'œuvrer sans fin. Quelle serait la success story dans l'Afrique francophone ? On a l'impression que des pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger ne décollent pas et au contraire voient année après année leurs conditions se dégrader.
Ah ben, je pense que...
Alors, on rebouche des trous et de nouveaux trous
Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été très impliqué en 2011, au moment de la crise politique en Côte d'Ivoire. Fin 2010, début 2011. L'Agence française de développement, d'ailleurs, a joué un rôle tout à fait clé, puisque la semaine même où le président Ouattara a pris ses fonctions, à l'issue de la crise, l'Agence française de développement a apporté 350 millions d'euros de financement aux nouvelles autorités ivoiriennes, qui ont permis de remettre immédiatement, avant que la communauté internationale revienne, de l'activité dans l'ensemble du pays, à Abidjan en particulier, et quand même, la Côte d'Ivoire a connu un parcours depuis maintenant 7 ans qui est tout à fait impressionnant d'un point de vue économique et de développement.
La Côte d'Ivoire est un pays riche.
La Côte d'Ivoire a connu 15 ans de crise très profonde, d'appauvrissement de sa population.
Des pays sahéliens, on ne voit pas de décollage, enfin même de stabilisation.
Mais je crois qu'il faut raisonner sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Quand vous allez, je pars de la Côte d'Ivoire, je vous réponds sur le Sahel. Hein. Mais quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous rencontrez le président Ouattara, il vous dit, et c'est d'ailleurs un enseignement important pour gérer les mouvements, les migrations, il vous dit développer la Côte d'Ivoire, développer les pays côtiers, parce que quand des gens quittent le Niger à cause de la pauvreté, et à cause aussi de la croissance démographique qui est incroyablement puissante dans la zone sahélienne, où est-ce qu'ils vont ? Ils viennent pas en France. ils viennent en Afrique du Nord ou ils viennent, bien sûr, encore plus nombreux en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria. Donc les deux sont liés, c'est-à-dire les résultats de développement qu'on a dans des pays qui sont plus riches, effectivement, les pays côtiers, ont un effet, bien sûr, sur la crise sahélienne. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir au Sahel. Moi, je suis allé avec Pierre-René Lemas, le directeur général de la Caisse des dépôts.
Votre nouveau partenaire, pour être
voilà,
dire.
Notre allié, à Ouagadougou, il y a un mois. J'ai vu. On a visité, là, par exemple, la centrale solaire de Zaktouli, qui est juste à côté de Ouagadougou. Ben, c'est la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest. Elle est beaucoup plus grande que toutes les centrales qu'on a pu construire en France, d'ailleurs. Mmh. Donc, il se passe des choses sur le terrain et elle représente, je crois, 5% de la capacité électrique de l'ensemble du Burkina Faso sur un seul équipement financé par l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts bientôt.
On comprend ce que ça apporte au pays du Sud, cet engagement important en matière de développement. Mais c'est quoi? C'est de la bonne conscience? C'est, qu'est-ce que ça apporte concrètement ensuite à la France et à l'Europe?
On a fait une étude, je voulais apporter, là, elle est là. On est allé explorer en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui sont trois pays qui sont sur des niveaux d'aide au développement plus importants que la France et qui sont dans une forte croissance de leur aide. Comment ils avaient réussi à, on a appelé ça chercher l'accord, à mettre leur pays en coopération, à trouver un consensus plus puissant qu'en France derrière tout cela. Et je crois que la prise en compte des intérêts de votre propre pays est évidemment un facteur très puissant. Après, chaque pays a son histoire. Les Américains, c'est la sécurité nationale qui est le driver. Les Anglais, c'est la lutte contre la pauvreté, les Allemands, c'est plutôt le climat. Il faut que chacun trouve ses raisons, son narratif.
Et donc, il y a des retombées domestiques, intérieures.
Alors, il y a évidemment des retombées. Déjà, les problèmes que nous combattons dans les pays du Sud sont les nôtres. Quand on parle d'immigration, quand on parle d'Ebola, quand on parle de nouveaux marchés de croissance économique, c'est pour nous, bien sûr. Ouais. Ça concerne les Français. Quand vous interrogez les Français, d'ailleurs, ils vous le disent. Ils vous disent aux trois quarts qu'ils sont intéressés par ce que nous faisons, qu'ils considèrent que ce qui se passe là-bas les concerne ici. Et puis, il y a un dernier point que je veux faire, c'est prenons bien garde. Il se passe dans les pays du Sud des avancées, des innovations, des disruptions aussi parfois, qu'il faut absolument comprendre maintenant parce qu'elles se passent avant de se passer en France.
Ce sont des labos de modernité.
Mais regardez ce que dit Orange, regardez ce que disent les banques, regardez ce que disent les grandes entreprises énergétiques. Elles vont en Afrique pour innover, pour apprendre, pour développer des nouveaux modèles économiques, pour développer de nouvelles technologies, avec l'espoir et l'idée, bien sûr, de les ramener en France après et en Europe.
Plusieurs choses par rapport à ce que vous venez de dire.
Innovation
au niveau des migrations, c'est devenu effectivement une priorité de maintenir les populations là où elles sont pour éviter qu'un jour elles ne se retrouvent sur des bateaux. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'instaurer une sorte de conditionnalité où on dit à des pays vous reprenez vos ressortissants et dans ce cas, on vous finance des projets.
Et je ne crois pas.
Ce qui serait moralement quand même un peu gênant.
Oui, il y a eu ce débat dans la campagne, d'ailleurs. Certains candidats portaient une vision très conditionnée de l'aide. Et le président Emmanuel Macron avait une vue... bien sûr qu'il faut prendre cette réalité en compte. Elle existe. Mais sans en faire un lien automatique.
Non, mais on n'est pas très loin de ça au Niger aujourd'hui.
Mais, vous croyez que les gens qui quittent leur propre pays le font de gaieté de cœur? Bien sûr que non. S'ils ont un avenir économique, s'ils ont dans leur population, dans leur pays, avec leur famille, sans avoir à quitter leur propre pays, ils le feront. Donc, il faut absolument développer les pays d'origine des migrations. On n'arrêtera pas les migrations. Il y aura des mouvements, évidemment, en particulier venant du Sahel, compte tenu de l'explosion démographique de ces pays. Il faut, et je reviens sur mon point, il faut absolument mettre le paquet sur les pays de, je dis pas de transit, je dis les pays de première destination, c'est-à-dire là où les gens vont en priorité, d'abord la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud, vous savez qu'il y a énormément de subsahariens qui sont en Afrique du Sud, et il faut bien sûr savoir accueillir ceux qui arrivent chez nous in fine, c'est toute cette chaîne. Et là, par exemple, le rapprochement entre l'AFD et la Caisse des dépôts a beaucoup de sens, parce que nous on est l'instrument dans les pays d'origine, les pays de première destination. La Caisse des dépôts, vous savez, fait beaucoup de choses sur les réfugiés, sur l'entreprise pour les migrants qui arrivent en France.
Je reviens sur ce point, on n'en est pas encore à conditionnaliser de l'aide et des accords de réadmission.
Absolument pas.
D'accord. Et comment vous expliquez que les Européens, alors les Anglais mettent beaucoup, les Anglais c'est compliqué parce qu'ils sont en train de quitter l'Union Européenne, mais les Allemands mettent beaucoup, les Français aussi, etc. Pourquoi on ne mutualise pas ça? Pourquoi on aurait beaucoup plus
d'impact? Alors, je vous remercie de me poser cette question parce que moi, je crois beaucoup que dans le nouveau projet européen qui va se construire, là, notre président est élu sur un mandat pro-européen. On a des élections, on a eu les élections néerlandaises, on a des élections en Allemagne à la fin de cette année. Il va s'ouvrir un espace pour rebâtir, renforcer le projet européen. Et moi, je suis convaincu, et je porterai cette idée-là, que le développement, la politique de développement est prête pour occuper une place importante dans le nouveau projet européen. Il y a beaucoup d'argent à Bruxelles, vous le savez. La Commission européenne est très active dans ce domaine. Et je crois que vous recevrez le commissaire Pierre Moscovici prochainement. Posez-lui la question. Et la Commission européenne a l'intelligence maintenant de faire levier, de mobiliser l'ensemble des acteurs européens. Donc, vous voyez, nous, par exemple, on reçoit à peu près... On a un instrument économe. Hein, on gère à peu près 1 milliard d'euros venant du budget de l'État français. Et ce 1 milliard d'euros, on le transforme, vous l'avez dit, en 10 milliards d'euros à peu près de financement. On reçoit aussi, on gère chaque année maintenant 500 millions d'euros venant de la Commission européenne. Donc vous voyez, avec ça, si on fait ça avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Nordiques, même si les Anglais s'éloignent, toutes nos banques de développement coordonnées, on va avoir un effet démultiplicateur très puissant.
Il y a deux chiffres que je voudrais rapprocher puisqu'on est dans les chiffres. Il y a une sorte de consensus dans les pays occidentaux d'avoir un budget militaire aux alentours de 2% du PIB.
Oui.
On voit qu'en France, on est autour de même pas le quart de cela. Est-ce que vous êtes les rivaux des militaires?
Bon, la défense, je crois que l'effort français est plus élevé que ça. On n'est pas aux 2%, mais on doit être à 1,7, voilà, c'est ça. Donc non, pas du tout. Moi, mon meilleur ami à Paris, c'est le général de Villiers. On a signé d'ailleurs récemment dans le Figaro une tribune commune parce que les militaires, je crois, sont très clairs. C'est-à-dire, ils disent aux autorités politiques, il y a un objectif politique qui est la stabilisation et le développement du Sahel, qui est la résolution de la crise syrienne et de ses effets sur les voisins, qui est la crise en RCA. Il y a un objectif politique. Ensuite, il y a plusieurs instruments pour atteindre cet objectif. Il y a évidemment un instrument de défense, de sécurité qui est indispensable. Et vous savez que nos amis africains sont très reconnaissants à la France d'avoir arrêté au Mali l'expansion djihadiste. Mais vous devez avoir en même temps un instrument de développement. Et ces deux instruments, vous voyez, vous dites 2%, l'objectif international c'est 0,7%. Il faut que ces deux instruments soient, je dirais, commensurables, c'est-à-dire de taille un peu comparable. Donc il faut qu'on ait un Barkhane du développement. Je veux dire, il faut qu'on ait l'équivalent de la force Barkhane pour agir au Sahel, et on y travaille. Hein. On renforce nos capacités en ce moment pour notre action au Sahel. Et chacun dans son métier. C'est-à-dire évidemment le développement, nous ne sommes pas des supplétifs de l'armée française. On est là pour faire notre travail de développement, et les militaires font leur travail. C'est très très différent.
On voit bien que quand vous utilisez l'expression comme un Barkhane du développement, on se retrouve dans une logique qui est en appui aussi des
militaires.
L'aide française est de plus en plus aujourd'hui co-gérée entre les militaires et les civils.
Il n'y a pas de développement sans sécurité. Vous n'assurerez pas le développement du Mali sans assurer sa sécurité. Ça, ce sont les Maliens.
C'est ce que vous appelez gagner la paix.
Ce sont les Maliens eux-mêmes qui vous le disent. Et j'inverse la proposition. Il n'y a pas de sécurité durable de ces pays sans développement. C'est-à-dire qu'il faut absolument que des actions de développement, je dis bien de développement, puissantes, profondes, qui entraînent les communautés, prennent le relais dans le temps de la crise. Pour que la situation soit durablement rétablie et que le pays progresse.
C'est un discours évident avec lequel tout le monde est d'accord. Mais vous voyez bien ce qui est en train de se passer dans le nord du Burkina Faso, où désormais,
j'y étais récemment.
Il y a un mouvement djihadiste qui est en train d'assimiler toutes les actions d'enseignement à la chose des Blancs, c'est-à-dire un Boko Haram burkinabé francophone.
Et quelle est votre réponse?
La réponse, c'est que plus vous êtes près des militaires et plus vous deviendrez une sorte d'instrument impérialiste.
Vous voyez bien la vision de ces gens. Ces gens souhaitent qu'il n'y ait plus d'éducation dans le nord du Burkina Faso.
Je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis juste que c'est un piège qu'ils vous tendent et que la coopération française qui est devenue quasiment un appui de l'action de l'armée française dans tout le Sahel est en train de tomber dans ce piège et va devenir une cible.
Mon point, c'est pas de conflit négatif. C'est-à-dire, ne rentrons pas dans un jeu où il y a du retrait en termes de sécurité et du retrait en domaine dans le domaine du développement. Il faut évidemment une action positive dans les deux domaines. Et in fine, bien sûr, l'objectif de toute agence de développement, c'est que le pays lui-même prenne en compte, finance, développe cet effort. Donc, je vous donnais d'ailleurs les chiffres tout à l'heure entre l'aide au développement et les ressources domestiques des États. On en est déjà là. C'est évidemment pas nous qui finançons l'éducation au Burkina Faso. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes. Après, on apporte un soutien, un support à la demande des autorités.
On évoque le nouveau paysage du développement avec l'arrivée donc à l'Élysée d'Emmanuel Macron. Il se trouve qu'il y a une centaine de jours, un autre président a pris ses fonctions à la Maison Blanche. Il s'appelle Donald Trump, America First, hein, donc ouais. L'Amérique d'abord. Et pour augmenter l'aide militaire, lui, il a trouvé, il tape dans le budget du développement, ça, moins 30%.
On verra ce que dit le Congrès. C'est la proposition.
Politiquement, il y a quand même quelque chose qui, pour vous, j'imagine, est inquiétant.
Le développement, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un capteur de la grande politique internationale. Vous voyez, j'étais au Japon le week-end dernier. J'ai rencontré tous nos amis japonais et c'était intéressant parce qu'ils nous parlaient pas du tout de la Chine, en fait. Dans les journaux, il y avait partout la rivalité Chine-Japon. Vous savez, il y a une nouvelle banque chinoise. Puis moi, j'étais à la Banque asiatique de développement. Non, ils m'ont dit deux choses, nos amis japonais. D'abord, le président de mon homologue, qui s'appelle la JICA, qui est un ancien ambassadeur des Nations Unies. Il se trouve qu'on était là-bas le lundi qui a suivi l'élection d'Emmanuel Macron. Donc là, il m'a pris dans ses bras en arrivant. Donc il faut mesurer l'écho international de cette élection. Ils étaient vraiment extrêmement contents. Et l'autre chose, en revanche, il était très inquiet de la situation américaine, bien sûr. Et en l'occurrence, dans le domaine du développement, puisque c'est son métier. Mais pour nos amis japonais, c'est quelque chose de très, très identitaire, très profond, la relation.
Alors, Trump pourrait donner de mauvais exemples dans le monde ?
On ne sait pas. On va voir. Il y a eu la nomination, là, vous savez, la proposition au Congrès vendredi dernier du nouveau patron de USAID, qui est l'AFD un peu des États-Unis d'Amérique, qui est quelqu'un, un ancien ambassadeur en Tanzanie, que j'ai rencontré dans mon dernier déplacement à Washington, très respecté. On va voir le mandat qu'il reçoit des Américains. C'est les Américains, il faut toujours se souvenir, hein, c'est le plus grand bailleur du monde.
25 milliards.
Ils font 33 milliards de dollars d'aide au développement par an. Donc c'est pas beaucoup, parce qu'on dit toujours leur part du PIB. Donc évidemment, ils sont à 0,10% du PIB américain, qui est très large. Mais en valeur absolue, c'est quand même, ça reste le premier, le plus généreux
des
donateurs.
Mais c'est peu de choses par rapport à leur PIB. Si ça baisse encore, ça va se ressentir.
Ah, mais il y a une inquiétude, bien sûr, il y a une inquiétude. C'est là que l'Europe, je crois, j'en reviens à mon point précédent, c'est là que l'Europe a certainement, on va pas se substituer aux Américains, mais l'Europe, je pense, peut s'affirmer dans le domaine du développement. Elle est déjà, l'Union européenne fait 65% de l'aide au développement mondial, des 150 milliards que je vous indiquais. Donc il faut en être fier, il faut l'affirmer et le porter. Surtout dans ce contexte.
Comme la Chine ne devrait pas un peu plus participer, puisqu'après tout, ils sont présents partout en Afrique. Ils le font.
Ils le font.
Ils augmentent.
Ils le font. La caractéristique de la Chine, c'est qu'elle ne déclare pas son aide à l'OCDE, puisqu'elle n'est pas membre de l'OCDE. Donc vous n'avez pas de chiffres validés, certifiés, comme les chiffres français ou américains ou anglais. Mais évidemment, la très grande évolution qu'on observe dans le monde depuis 5 ans, je dirais, c'est la place maintenant que prend la Chine dans l'ordre international. Mais, oui, et ça s'exprime aussi dans la politique de développement.
Mais c'est une aide de développement ou c'est une aide ponctuelle à des endroits où ils ont besoin, pour leurs infrastructures, de construire un barrage,
D'une part, les Chinois sont en Afrique et aident l'Afrique depuis très très longtemps, depuis les indépendances. C'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur. C'est-à-dire, il y a eu l'effet de richesse de la croissance chinoise dans les années 2000 qui a décuplé leurs moyens. Non, c'est du développement, bien sûr. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui même le sommet au bord, là, ils appellent ça One Belt, One Road.
Une route de la soie.
C'est la reformulation des routes, parce qu'il y en a deux. En fait, il y en a une terrestre et une maritime de la soie. 29 chefs d'État aujourd'hui à Pékin pour en parler. Donc, il y a cette vision. Il y a la France est représentée, je crois, par Jean-Pierre Raffarin, mais bon, on est dans une situation où il n'y a pas de gouvernement.
Non, donc, les Allemands, les Américains.
Les Allemands sont là. Non, bien sûr, les Occidentaux sont là. Mais il y a aussi Vladimir Poutine, il y a aussi Erdogan, il y a aussi. C'est la grande. C'est du développement, hein, ces routes, c'est des infrastructures, c'est de la grande politique internationale, bien sûr.
Oui, non, mais au niveau des chefs d'État, il n'y a pas un seul occidental.
On est en
concurrence ou parce que je comprends bien qu'en France il y a une passation de pouvoir, mais il n'y a pas l'allemande, il n'y a pas l'américain, il n'y a pas le canadien.
Ce que je peux vous dire moi de mon expérience dans les enceintes internationales, c'est à la COP21, la présence chinoise a été très puissante. Je veux dire l'accord qu'on a obtenu, et d'ailleurs vous voyez bien les Chinois maintenant se disent même les garants de la lutte contre le changement climatique, même les garants du libre échange, les garants, enfin le monde change. Prenez un autre exemple qui est stupéfiant, le Club de Paris. Vous savez, le Club de Paris, c'est la réunion présidée par la France, d'ailleurs, que moi j'ai présidé moi-même, des créanciers du Nord, historiquement du Nord, des pays du Sud. Et bien la Chine est rentrée au Club de Paris, il y a peu de temps. C'est un signe assez intéressant, parce que quand vous n'êtes pas dans le Club de Paris, ça veut dire que vous pensez que vous avez la force de renégocier, rééchelonner, annuler peut-être vos propres créances tout seul, parce que vous êtes très puissant. Le jour où vous rentrez dans le Club de Paris, c'est que vous vous dites tiens, c'est peut-être pas inutile d'être aussi avec les autres. Et moi j'y vois un signe que les Chinois, bien sûr, sont entrés en défendant leurs intérêts avec, bien sûr, leur place dans le jeu international.
Le développement derrière cette vision noble, humaniste, etc., c'est aussi un outil de soft power, un outil de diplomatie, de prestige.
Oui. Moi, je dis qu'on est rentré dans un monde polylatéral. C'est-à-dire, vous savez, il y a le monde multilatéral, donc des institutions communes, qui sont celles de tous les, que nous avons fondées, celles de Bretton Woods, 45, qui est là, qu'il faut défendre, qui est sous tension, avec l'élection américaine, et le Brexit. Vous avez les institutions bilatérales comme l'AFD, qui bien sûr sont l'expression de leur propre pays. Donc bien sûr, elles ont un élément d'influence dans leurs interventions. Et tout ça, de plus en plus, forme, moi, ce que j'appelle un monde polylatéral, où il y a beaucoup d'interactions entre tous ces acteurs qui vont faire des dynamiques, des actions nouvelles. Il y a, je voulais vous signaler peut-être un groupe très intéressant qui est en train d'émerger. L'AFD, la KfW allemande, la Caisse des dépôts italienne, la banque de développement BNDES brésilienne, la China Development Bank, on en parlait à l'instant, les Indiens, toutes ce sont les banques de développement national qui se sont regroupées dans un club, c'est pour ça que j'étais au Japon, et qui font maintenant, qui jouent collectivement. Donc vous voyez, c'est à la fois elles expriment leurs intérêts nationaux, bien sûr, et en même temps elles jouent de plus en plus collectif avec l'ensemble des acteurs pour faire plus de développement, bien sûr.
Si on prend le success story en matière de développement de ces dernières années en Afrique, on tombe sur le Rwanda, l'Éthiopie, pas des pays très 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 démocratiques. Est-ce que en fait, il faut pas pour se développer une sorte de phase d'autocratie avec un leader éclairé qui cravache?
Pas enfin, comment dire, peut-être qu'il cravache pas, mais qu'il y a une autorité.
L'image est un peu forte,
non,
mais
je dirais pas
comment
ça.
Dire, est-ce qu'il faut pas mettre un peu de côté l'exigence démocratique qui peut avancer?
On a accueilli il y a quelques semaines nos amis de la Banque mondiale qui ont fait pour la première fois, vous savez, chaque année la Banque mondiale fait un grand rapport où elle synthétise en fait toute l'information disponible sur un sujet de développement. Ils nous ont fait l'honneur de venir le faire à l'AFD cette année, et leur rapport cette année porte sur la gouvernance. Donc le sujet que vous évoquez. Et ils introduisent une notion nouvelle. Alors je la dis en anglais parce que je sais pas la traduire. Ils disent « good enough governance ». Oui, ça veut dire
suffisamment bonne gouvernance.
C'est la gouvernance suffisamment bonne. Donc
acceptable.
Je crois que la communauté internationale, on a appris aujourd'hui qu'il n'y a pas de modèle unique de gouvernance. Et peut-être que dans le passé, on a cherché à dupliquer nos propres institutions ou les institutions américaines, etc. En revanche, il faut évidemment dans chaque pays trouver la good enough governance, c'est-à-dire la gouvernance qui rassemble au maximum, qui inclut les femmes, on en parlait, et qui déclenche des dynamiques de développement. Et ça, la vérité, elle est pays par pays, évidemment, et chaque pays élabore son propre modèle comme nous avons élaboré le nôtre. On est tous en développement, je veux dire, c'est quand même ça la leçon des objectifs de développement durable. Faut arrêter de croire qu'il y a le Sud et le Nord et que chacun, il y en a un qui a la vérité et qui doit l'imposer aux autres. Ça c'est terminé et c'est très clairement terminé pour tout le monde.
Vous avez 2400 collaborateurs, et ce qui est rare dans le domaine public ou parapublic, vous recrutez assez massivement.
Ben, je vous l'ai dit, le gouvernement nous a demandé d'augmenter de presque 60% notre activité annuelle d'ici à 2020. Donc on est sur une trajectoire de croissance. Et cette croissance, évidemment, on veut la faire avec la même qualité, même en augmentant la qualité de nos interventions. Mesurer nos impacts, avoir de bons projets. L'agence est, je crois, réputée pour ça dans la communauté des bailleurs de fonds. Donc ça suppose, oui, d'avoir plus de capacités. Et vous savez, on est une entreprise, hein, une entreprise publique, mais une entreprise. Donc on a des salariés de droit privé. Ce qui est intéressant à l'agence, c'est qu'on a des ingénieurs, des économistes, des financiers, et qu'on cherche à avoir la palette. Vous voyez, j'ai un de mes collaborateurs qui s'appelle François Henry. Lui, c'est le pêcheur de l'AFD. Donc à l'AFD, on a un pêcheur. Parce que la gestion des océans, des ressources halieutiques, c'est un vrai et important sujet de développement. Il faut qu'on ait cette capacité en interne et qu'on la renforce dans les prochaines années.
80 nationalités et 100 langues au total à l'AFD, l'Agence française du développement. Merci Rémy Rioux d'avoir été l'invité d'International sur TV5 Monde, RFI avec le quotidien Le Monde. En effet, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre commentaire d'une actualité, bien sûr, internationale.
I like on the road, like when you're a boy.